Parce que la différence d'âge fait de nous des camarades de ses enfants plus que de lui-même, nous pensons que le meilleur hommage à lui rendre est de saluer le choix rayonnant d'intelligence et de puissance de son sacrifice. Dominique Vénère croyait à l'histoire. Il savait que celle-ci se forge autour de longues et patientes évolutions, mais plus souvent encore par l'éruption de l'imprévu, de l'inattendu, de l'événement qui embrase tout, précipite les choses, au sens chimique, pour assurer le basculement d'un monde ancien vers un nouvel ordre à bâtir. La seconde passion de Dominique Vénère, c'était la patiente recherche du meilleur effet produit. Sans illusion sur la dureté des temps, il a, toute sa vie durant, après avoir connu l'ivresse des combats, militaires puis militants, cherché à peser et à être utile au meilleur endroit, au meilleur moment, avec les meilleures armes, politiques, intellectuelles, esthétiques ou morales. Le choix de sa mort est, à ce titre, troublant de pertinence, elle lui ressemble totalement. Il a choisi un acte pur, romain, sans peur ni faiblesse. Quelles que soient les analyses médiatiques qui seront faites, la nudité et la pureté de son acte ne pourront être salies. Et dans notre inconscient engourdi de vieux Européens, cette mort volontaire nous saisit plus fortement que nous le pensons nous-mêmes. Elle nous rappelle le sens du tragique, à tous ces moments de l'histoire où nos ancêtres ont eu leur propre vie entre leurs mains, bien loin des douceurs émollientes de notre époque d'enfants gâtés. Il a choisi un lieu d'une puissance évocatrice, exceptionnelle, un lieu symbolique de la chrétienté, si fortement malmenée depuis longtemps et pourtant si puissamment réveillée ces derniers temps par le sursaut de ces centaines de milliers de manifestants qui, partout en France, défendent une certaine conception de la civilisation européenne et chrétienne sans être nécessairement de fervents catholiques. Un lieu laïque aussi, car Notre-Dame est la cathédrale de Paris, capitale de la France, ce qui permet à tous de s'y identifier, quelle que soit leur opposition, leur option intellectuelle, philosophique, morale ou religieuse. Il a choisi un moment opportun, celui où, dans le sillage des grands cortèges de la Manif pour tous, de jeunes générations s'éveillent au combat militant et à la défense de leurs valeurs, face au silence des immobiles, au mépris des médias ou aux mensonges de l'État. Dominique Vénère a vu, lui, que ces jeunes sont un levain, un ferment, l'avant-garde d'une nouvelle génération de Français et d'Européens qui, inconsciemment ou non, tardivement peut-être, ont décidé de ne pas abdiquer le droit de vivre leur vie d'homme dans la fidélité à leur identité. Lui, l'observateur des joutes politiques, trop souvent stériles, a compris que ces jeunes gens ont besoin de repères, d'illustrations, de symboles, de quelque chose qui parle à leur être. Il a enfin choisi l'humilité. Sa renommée et la force de sa plume auraient pu lui faire préférer l'écriture d'un nouveau bréviaire pour jeunes militants ou d'un livre définitif sur sa vision de l'histoire et de notre devenir. Il a choisi de ne donner qu'un seul signe, qu'un seul exemple, en rappelant que toute cause ne vaut que si le sacrifice ultime fait partie des options, que toute cause n'est véritablement sacrée que si elle engage sa vie même. Il a offert aujourd'hui la sienne pour que vivent demain, dans la fierté retrouvée, de nouvelles générations d'Européens. En ce sens, nous qui n'avons pas partagé avec Dominique Vénère les passions de sa jeunesse, nous qui n'avons pas pour nous réchauffé de son absence les souvenirs des combats du passé, nous voulons dire combien nous nous inclinons devant la lumineuse intelligence de sa dernière action, sans doute la plus politique de ces 20 dernières années. Nous n'avons pas de peine, nous sommes frappés par la lucidité de son choix et le courage de son acte. Ce qu'il nous reste, c'est la joie de l'avoir suffisamment connu pour comprendre la puissance de cet acte et apprécier la force de l'effet produit. Il nous faudra désormais rester fidèles et être à la hauteur. Philippe Fristel et Grégoire Rambier, et bien sûr le reste de l'équipe de la Vie Europe et moi-même se joignent à ce message en hommage à Dominique Vénère.
Dimanche 9 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 9 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 9 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Oestreicher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 euros. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, après cette annonce, nous voici de retour dans ces chroniques de la vieille Europe. Et le miracle est arrivé, notre invité arrive dans le studio. Et effectivement, pour parler de cette question plus que sulfureuse qui est de savoir si les races existent-elles, nous avons décidé de donner la parole à Michel Drac, qui a écrit il y a maintenant, depuis 2009, un petit livre qui s'appelle « La question raciale ». Alors, Michel Drac, premièrement, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vous ai invité parce que depuis 2009, je pense que vous n'avez pas eu de procès, donc je me suis dit, le livre, c'est bon, on peut le faire passer à l'antenne, il n'y aura pas de problème.
Il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait, de toute façon.
Alors, qu'est-ce qui vous a pris à faire un livre sur la question raciale? C'est le sujet, on vous connaissait pour vous, vos livres sur la crise. Là, c'est le sujet sulfureux, c'est le sujet casse-gueule.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... À l'époque, j'étais membre de l'association d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, et j'ai eu une discussion avec un camarade qui était membre du Bloc Identitaire. Je me suis rendu compte dans le fil de la discussion qu'il allait être très difficile d'avoir un dialogue sain dans la mesure où nous employons tous des mots biaisés. Et que, en fait, la véritable question raciale, en quelque sorte, était devenue inaudible parce que informulable. Donc je me suis dit, on va essayer de poser la question. C'est l'enjeu du livre. Et la première chose à faire, évidemment, c'est de poser les concepts.
Alors, dans un premier temps, vous expliquez que dans l'histoire des hommes, la race fut considérée comme un fait un peu structurant du fait social, mais qu'il n'y avait rien de scientifique dans tout ça.
Alors, en fait, je crois que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les mots, évidemment, ont un sens en fonction du contexte dans lequel on les insère. C'est-à-dire que vous pouvez trouver le mot « race » dans des textes antérieurs à la modernité, mais en fait ce mot n'a forcément pas du tout le même sens que celui que nous lui donnons aujourd'hui, parce que le sens du mot race tel que nous le disons, tel que nous le percevons instinctivement, je dirais, aujourd'hui, est inséparable du contexte créé par l'individualisme. Dans les sociétés traditionnelles, la brique de base de la société n'est pas l'individu. Dans les sociétés traditionnelles, la brique de base de la société est généralement la famille. Alors, il existe là de multiples modèles, mais ils ont finalement tous la même finalité, faire en sorte que la brique de base de la société soit quelque chose qui va durer, qui n'a en tout cas pas de fin programmée inéluctable. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des sociétés traditionnelles, des choses qui nous paraissent à nous scandaleuses paraissent tout à fait normales. Et des choses qui, inversement, paraîtraient à ces gens-là tout à fait normales, nous paraissent tout à fait scandaleuses. Depuis la Révolution française en France, il est acquis qu'il est finalement d'une certaine façon scandaleux qu'un fils d'aristocrate hérite d'une position sociale... finalement, effectivement, au regard des catégories définies par la République française, sans le mérite qui va avec. Mais dans des sociétés traditionnelles, c'est normal, parce que ce qui serait scandaleux, ça serait de dépouiller la lignée aristocratique en question de son patrimoine, car le patrimoine n'est pas compris comme étant quelque chose qui appartient à un individu, c'est de toute façon quelque chose qui appartient à une lignée. Dans les sociétés traditionnelles européennes, ça fonctionne comme ça. Il existe des variantes dans d'autres sociétés, par exemple, dans certains modèles familiaux africains, on ne peut pas travailler comme ça parce qu'il n'y a même pas de lignée, en quelque sorte, ils n'ont pas le concept.
Ouais.
Et donc là, à ce moment-là, la propriété va être clanique ou tribale. Bon, mais c'est toujours le même principe. Pour ces gens-là, le point de départ de la société, c'est cet élément pérenne qui est construit par une succession ou une communauté d'individus. Succession et communauté, d'ailleurs, qui fusionnent d'une certaine façon, puisque la famille est une communauté des morts et des vivants. T'es compris comme ça. Dans de telles sociétés, que veut dire le mot « race » ? Il évoque quelque chose de directement biologique. Il évoque un concept, si vous voulez, qui n'est pas simplement opératoire. C'est un concept qui est induit en quelque sorte par l'observation directe du réel et la réalité des pratiques sociales. Et il n'y a pas à ce moment-là à arbitrer en quelque sorte entre une exigence d'égalité des individus et une exigence de prise en compte de la dimension structurante raciale du fait social. C'est la même chose. Enfin, d'une certaine façon, l'individu étant directement et totalement socialisé à travers la lignée à laquelle il appartient, quand on parle de mot race dans les sociétés traditionnelles, on parle en quelque sorte de quelque chose qui est, pour ces gens-là, aussi immédiatement et directement, intuitivement compréhensible que pour nous, la notion d'individu. Et à la limite, si on était, par hypothèse, capable de retourner au 10e ou au 11e siècle, et qu'on aille employer le concept d'individu, je ne sais pas si on nous comprendrait. On verrait. Oui, d'accord, un individu, deux jambes, un torse, deux bras, une tête, d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est une cellule sociale ? Ça veut dire quoi ? Non, on ne comprendrait pas. Bon. Aujourd'hui, la race, le concept de race, est devenu par nature dérangeant. Parce que effectivement, dans une société qui est une société des individus, en tout cas qui se veut une société des individus, si l'on admet par hypothèse qu'on peut construire une société des individus, ça reste à démontrer, mais si on l'admet. Dans cette société-là, la race est quelque chose qui vient perturber les systèmes de catégorisation, de hiérarchisation, de classification de la société des individus. Bon, ah, comment se fait-il que ce monsieur bénéficie d'un traitement de faveur ou de défaveur par rapport à ce monsieur ou par rapport à cette dame, sous prétexte qu'il serait le fils ou la fille de truc ou de bidule ? Ça n'est pas logique dans un système qui se veut indifférenciant des individus, au moins pour pouvoir construire les bases, ensuite, des interactions qui vont leur permettre de se différencier, mais toujours à partir du cadre individuel, du cadre de pensée induit par l'individualisme. Alors, ça veut dire que, tout simplement, aujourd'hui, quand nous employons le mot « race », nous sommes amenés forcément à être mal à l'aise. Et en fait, tout le monde l'est. C'est-à-dire que, ça c'est une chose que, souvent, on ne perçoit pas bien. En fait, l'usage du mot de race aujourd'hui est truqué, malsain, biaisé, souvent hypocrite, très souvent empreint d'une sorte de naïveté inconsciente, y compris par ceux qui se réclament de la défense de ce concept. Parce que nous avons beau faire, nous avons beau dire, nous sommes des modernes. Nous pensons malgré nous dans les catégories de l'individu. Je connais beaucoup d'amis qui essayent de toute leur force de sortir du conditionnement de la société individualiste, car la notion d'individualisme renvoie en fait implicitement à un conditionnement. Ils essayent, leurs efforts sont très louables, mais en fait on voit bien qu'ils ne peuvent pas. Je connais des vieux païens qui voudraient penser comme les héros d'Homère, mais ça n'est pas possible. Et tout simplement, il ne.
On est massif.
Oui, oui. Voilà. Ça n'est pas possible parce que ils vont lire l'Iliade un peu, si vous voulez, comme Hollywood la met en scène, comme une épopée des individus. Mais non. Et non. Parce que le rapport qu'ils ont à la nature est fondé sur l'observation du pouvoir de la technique, derrière laquelle il y a l'idée que l'individu peut s'émanciper de l'ordre naturel. Et ils ont beau faire, ils peuvent pas se le retirer de la tête. Moi non plus, personne. Vous sortez dans la rue, vous vous promenez dans Paris une demi-heure, l'homme a éradiqué la nature. Donc à partir de là, étant donné le spectacle extraordinaire du pouvoir de la technique, l'individu peut croire, effectivement, et il le croit spontanément, qu'il est une totalité, en quelque sorte, en lui-même. Donc, même ceux qui essayent de défendre ce concept, par la force des choses, en ont une vision biaisée, et souvent, c'est la raison pour laquelle leur pensée est infiltrée, en quelque sorte, par des virus qui ont été conçus à différentes étapes de l'élaboration de la société moderne, et qui ont été conçus pour rendre possibles ces étapes successives.
Quand vous... parce que, en fait, c'est au début de la Révolution française, c'est-à-dire le jour où on décide effectivement de mettre l'individu égal, que c'est en Allemagne qu'on va. Alors c'est le fait de l'évolution de la société. C'est pas contre la Révolution française que c'est en Allemagne que on va parler d'une race. Oui. Cette fois-ci, là, la couleur de la peau. Et c'est-à-dire que tous ces individus de même race sont égaux.
Exactement. En fait, bon, l'émergence du racisme se fait progressivement. Bon, je n'ai pas tout dit dans le livre parce que c'était pas la peine, si vous voulez, pour la formulation de la thèse. Mais je me suis rendu compte en étudiant un peu les textes que ça se fait progressivement à peu près, en fait, au rythme où les cultures sont placées devant le spectacle du pouvoir de la technique, devant l'hypothèse de la spéculation libératrice en elle-même, d'une certaine façon, et devant la prise de conscience d'un différentiel dans la capacité des sociétés, des groupes à activer ces leviers, différentiel qui est étroitement lié au niveau de développement culturel tel que nous entendons le terme aujourd'hui, d'une façon ethnocentrée, d'une certaine façon. Je crois que le tout début, ça se situe en fait dans le monde juif. Les juifs avaient, historiquement c'est vrai, il y a quelques siècles, une certaine avance culturelle, et on trouve déjà chez Maïmonide les premiers signes de cette conception hiérarchisante qui, inconsciemment, parce qu'elle se met à penser dans les termes de l'individualisme, bien qu'elle elle-même ne le voit pas, ne comprenne pas, commence à chercher des instruments de racialisation extérieurs à la réalité biologique et sociale immédiatement et directement perceptible. Et ça va donner effectivement les tout débuts de la du mépris institutionnalisé sur la base de l'idée qu'il existerait une voie du progrès, une voie du développement. Alors à l'époque, ça se passe surtout au niveau intellectuel, parce que ce sont les intellectuels qui ont été les premiers à sortir de la perception directe du réel, forcément. En fait, on commence à émerger à ce moment-là l'idée que, même si évidemment les gens de l'époque ne l'auraient pas dit comme ça, le basculement de ce que le sociologue canadien Marshall McLuhan appelait l'homme auditif tactile, c'est-à-dire l'homme d'avant la modernité, qui ne cartographie pas son environnement parce qu'il pense d'abord en fonction du sens de l'ouïe, parce qu'il est dans une tradition de l'oralité. Or, quand vous êtes dans l'oralité, dans l'ouïe, vous ne cartographiez pas, vous n'avez pas ce rapport froid, pré-scientifique en tout cas, on va dire, que donne un style de pensée dominé par la vue et qui est lié au développement de l'alphabétisation massive et au développement de ce que Marshall McLuhan a appelé l'homme visuel typographique. Déjà, c'est présent. Dès Maïmonide, déjà, ça commence à venir. Enfin, c'est quand même très éloigné encore des conceptions qui vont se former finalement et qui se forment au XVIIIe siècle. Alors, je crois que la façon la plus simple de les résumer, c'est de dire qu'au départ, ce qu'il y a, c'est quelqu'un, par exemple, comme Voltaire, qui défend la liberté, Mais alors, il a une conception de la liberté qui n'a rien à voir avec celle que, qu'on nous vend aujourd'hui. Vous avez des gens qui vous expliquent que la société d'aujourd'hui, c'est l'accomplissement du rêve de Voltaire, c'est une plaisanterie.
La fameuse phrase qui est totalement fausse, qui n'a jamais été dite, je me défendrai, même si vous défendrez vos idées.
C'est de la propagande. C'est de la propagande, surtout quand on sait comment il s'est comporté lui-même. Bon. La conception de Voltaire, je crois que c'est lui qui a écrit à propos de la liberté, mais il n'est pas question de dispenser nos laquais d'aller à la messe. Donc c'est une stratégie de classe. En fait, c'est l'émergence du capitalisme qui se passe à peu près en même temps que le basculement dans la modernité, que l'évolution de l'homme auditif tactile vers l'homme visuel typographique. C'est cette émergence d'un ordre social fondé sur tout simplement l'extorsion de la plus-value, pour dire les choses simplement, qui va créer l'appel d'air en quelque sorte pour fabriquer une idéologie justificatrice de l'exploitation des uns par les autres. Parce que si vous êtes dans un système qui se veut individualiste, qui prépare en tout cas l'émergence de l'individu, la reconnaissance de l'individu comme brique de base du social, comment vous faites pour justifier que vous mettez les Noirs en esclavage? Il y a un problème. Bon, la solution, c'est de dire, non mais bon, écoutez, les individus, oui, mais alors on va classifier, on va quand même faire de l'ordre. Donc, il va y avoir, c'est la première étape, ceux qui ont droit à la liberté, des gens comme Voltaire, et ceux qui ont droit à leur ration de maïs dans les plantations. Comme ça, tout le monde a ses droits. Déjà, c'était la logique, en fait.
Ouais, ouais.
Bon. Et puis, ça se formalise pas vraiment comme ça en France, parce que la France a sa culture, elle a sa tradition, elle a surtout le poids particulier qui a pris du fait des structures de propriété et des modèles familiaux que ça impliquait, une sorte de valorisation de l'égalité très forte, systématique. On peut lire Emmanuel Todd là-dessus, par exemple, il a écrit des choses, à mon avis, très justes. Et donc, cette sensibilité existe, elle prend forme en France, déjà, au XVIIIe siècle, mais elle ne se formalise pas. C'est en Allemagne qu'elle va se formaliser, et elle se formalise en Allemagne parce que l'appel d'air idéologique est probablement au départ moins fort. Parce que l'Allemagne, à l'époque, sur le plan de l'évolution anthropologique, a du retard par rapport à la France. La montée en puissance du capitalisme, qui est déjà bien entamée, en fait, au XVIIIe siècle, c'est pas un capitalisme industriel. À l'époque, il n'y a pas de révolution industrielle, mais c'est déjà un capitalisme marchand. Cette montée en puissance ne se passe pas du tout de la même façon ni au même rythme en Allemagne. Elle s'insère plus facilement dans les cadres sociaux, parce que ce sont des cultures déjà qui ont été marquées par le protestantisme. Bon, on peut voir le protestantisme comme une tentative, si vous voulez, pour faire survivre le christianisme à travers la modernité. Donc il y a un certain nombre de heurts, de clashs qui ne se produisent pas en Allemagne. Donc il n'y a pas le même appel d'air idéologique jusqu'à la Révolution française. Mais à la Révolution française, effectivement, à ce moment-là, la France va formuler le projet égalitaire induit par la révolution individualiste quand on la pense à la façon française. Et très clairement, quand on regarde le calendrier, c'est ce qui va amener l'Allemagne à formuler un projet inégalitaire dans le cadre individualiste, par réaction. Hein ? Donc ça commence effectivement avec un naturaliste, enfin je crois qu'on peut dire, je suis pas sûr, j'ai pas lu tous les écrits allemands de l'époque, vous pensez bien. Je crois que ça commence vraiment avec un naturaliste qui s'appelle Blumenbach, qui est le premier, à ma connaissance, à avoir développé un regard froid, scientifique, visuel, typographique, sur ce qu'il a appelé la race. Et effectivement, ce regard-là, qui ne perçoit plus les réalités charnelles, réelles, même s'il se donne l'impression d'être dans le charnel, en fait il n'y est pas, ce regard-là va catégoriser sur un système de critères. Bon, comment va faire Blumenbach ? Il va décider, en gros, que il y a les blancs, les noirs, les jaunes, et puis des sous-groupes à l'intérieur. Et on commence comme ça à mettre dans les cases ces individus qu'on a besoin de libérer jusqu'à un certain point pour faire fonctionner le système qui est en train de s'édifier, mais pas au-delà de ce point.
c'est alors on va avancer le premier qui va être connu par les auditeurs de Radio Courtoisie parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est un grand écrivain, c'est Arthur Gobineau. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, en fait, on n'a pas beaucoup compris ce qu'a voulu dire et écrit Gobineau sur ses... On l'a montré un peu comme un scientifique, ce qu'il n'était pas. Et alors, vous avez une vision, et c'est vrai qu'au départ, c'est étonnant, vous comparez son œuvre au film de Luchino Visconti, Le Guépard. C'est surprenant, mais c'est vrai que c'est quand même convaincant. Qu'est-ce que vous voulez montrer par là?
En fait, je crois que Gobineau est très maltraité. Il est victime d'une erreur de perspective. Bon, sur le plan caractérologique, c'était probablement un rêveur, un sentimental. Donc il ne faut pas prendre son œuvre pour ce qu'elle se donne parfois. Quand les rêveurs sentimentaux affectent la rigueur scientifique, ils ne font que l'affecter. Fondamentalement, chez Gobineau, comme chez la plupart des gens, mais peut-être un peu plus que chez la plupart des gens, les opinions ne sont que le masque des sentiments, et même dans son cas, je crois, un petit peu déjà des ressentiments. C'est un aristocrate, il vient du monde aristocratique, il a sinon les valeurs de ce monde, au moins la nostalgie de ces valeurs. Et... il n'ose pas s'avouer à lui-même, je crois qu'il est en voie de déclassement, il n'ose pas s'avouer à lui-même que son monde meurt. Alors il cherche à tâtons à fabriquer ce qu'on appelle en psychanalyse, si ma mémoire est bonne, un récit de rationalisation, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez quelque chose dans votre vie, dans votre parcours qui est inassumable, donc vous le re-racontez de telle sorte que ça devienne assumable. En fait, à mon avis, ce qu'il n'ose pas assumer, c'est qu'il est à peu près dans la posture du comte, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle dans Le Guépard, qui est obligé de vendre sa fille à une espèce de marcoulin abominable.
Ouais.
Alors bon, ben, on va aller inventer des instruments d'anoblissement artificiel de ce qui ne l'est pas. On va dire, ah mais oui, mais voilà... parce qu'il y a, je ne sais pas, 1000 ans, c'est les races aryennes qui ont civilisé la Chine. Alors, c'est pas grave si je vends... Enfin, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est... Alors, c'est pas grave si je vends ma fille à un margoulin, parce que c'est un margoulin arien. C'est mon interprétation.
Et en fait le comte de Gobineau se retrouve dans cette situation où il... Il appartient à un ancien monde, et dans ce monde moderne qu'on a expliqué, il n'est plus rien.
Oh ben, je ne me souviens plus exactement de son parcours, je l'avais étudié en écrivant le bouquin, mais sur le plan social, il n'a pas une position élevée.
Et donc, c'est là qu'il s'invente, en fait,
je crois.
Ses écrits. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que le conte de Gobineau, c'est un peu à la Céline. C'est-à-dire qu'il y a l'homme des Pléiades qu'on trouvait extraordinaire, et puis il y a son essai qui, effectivement, est considéré comme une chose.
C'est en train de revenir.
Une horreur totale.
Il a été édité en Pléiade.
Réédité, oui.
Réédité en Pléiade récemment, chez Gallimard. C'est, il y a eu quelques tentatives de présenter en tout cas son vrai visage qui n'était pas celui effectivement cette caricature qu'on a pu en faire.
Oui, non, dans le système actuel, chaque étape dans ce processus se construit sur la démonisation de l'étape précédente. Parce que chaque étape va un petit peu plus loin dans l'émancipation des individus. Et il y a forcément un moment où il faut démolir le cadre idéologique artificiel qui a été fabriqué pour le compromis précédent. Donc le compromis précédent devient le mal.
Alors on arrive bien sûr au prochain, c'est Chamberlain. Alors bon, soyons clairs, pour vous les théories de Chamberlain sont complètement fantaisistes. Mais ce qui est intéressant, et on retrouve ce que vous expliquiez dans le cas de Gobineau, mais là on est peut-être dans une structure peut-être beaucoup plus industrielle, c'est que les thèses de Chamberlain, elles arrivent au bon moment. pour une partie de la société industrielle, et c'est quelque part un moyen, vous expliquez, d'une rivalité du monde allemand par rapport à un monde judéo-chrétien qui tient les manettes. On retrouve là cette Allemagne qui, elle, a pris du retard sur le monde anglo-saxon, enfin le monde anglais, et même le monde américain, parce que la banque déjà commence à être les maîtres du monde à ce niveau-là, quoi. Alors, Berlin arrive à ce moment-là.
Oui. Alors là, je vais bien tourner ma langue dans la bouche avant de parler, par contre, parce que là, il faut faire attention.
Dans le bouquin, c'est clair. C'est vrai que je comprends que ça va pas être évident de reprendre. Allez-y.
Je ne crois pas que Chamberlain... lui aussi il est dans le même état que Gobineau, c'est-à-dire que lui aussi il n'est pas malhonnête, il faut bien le comprendre, mais effectivement il va formuler des thèses autour de la question raciale derrière lesquelles il y a la construction plus ou moins inconsciente d'un édifice de justification, alors dans son cas non pas du capitalisme et de l'individualisme tel qu'il fonctionne en Occident, mais de ce qu'il voudrait que devienne un capitalisme qui est en train de se dresser à ce moment-là en rival potentiel du capitalisme anglo-saxon et qui est le capitalisme allemand. Donc c'est un peu différent de Gobineau, puisque lui, il n'est pas dans le sentimentalisme passif, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui veut faire changer les choses, réellement. Et il va donc bâtir un cadre idéologique qui va utiliser, entre autres, les notions de race pour opérer cette transformation. Alors... c'est là qu'il faut bien tourner sa langue dans sa bouche. À cette époque-là, il se passe un phénomène dans le capitalisme anglo-saxon, dont d'ailleurs Chamberlain parle explicitement dans son livre La genèse du... J'ai oublié le titre, ça fait longtemps que je l'avoue, j'ai pas... La genèse du 19e siècle.
La genèse du 19e siècle, voilà, c'est vous ça. Le mettez en bibliographie voilà, à la fin de votre ouvrage.
Il en parle explicitement, et ce phénomène, c'est tout simplement que, pour dire les choses simplement, le système capitaliste anglo-saxon assiste en interne à la montée d'un certain nombre de familles, de réseaux, qui sont des familles et des réseaux essentiellement juifs. Bon, il y a les Rothschild, il y en a d'autres aussi. Les plus connus sont les Rothschild. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de tous les blablas idéologiques sur la libération des individus, sur l'égalité ou l'inégalité des races, dans toutes les sociétés, par la force des choses, la réalité du problème, quand on monte au niveau des classes supérieures, c'est garder le pouvoir. Par la force des choses.
Oui.
Or, le pouvoir, ça s'enracine en réalité dans le sang. Parce que pour qu'il y ait pouvoir, il faut qu'il y ait richesse, il faut qu'il y ait richesse considérable, il faut qu'il y ait richesse stable, il faut qu'il y ait richesse dont les gestionnaires peuvent planifier à très long terme. Ce ne sont pas des individus qui font ça. Ce sont des lignées. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la dynamique de la montée en puissance de l'individualisme, commencée, on va dire, à l'époque de la Réforme, poursuivie dans la Révolution française, accélérée au moment de l'émergence de l'industrialisme au XIXe siècle, cette dynamique qui pousse à individualiser toujours plus l'essentiel de la population, peut être captée par des groupes qui la pilotent au lieu de la subir. Si vous avez une famille qui reste profondément ancrée dans le sang, dans la capacité à structurer une vision du monde autour de la lignée, donc au-delà de l'individu, au-delà de sa mortalité, et tout autour un monde atomisé d'individus, mécaniquement, cette famille va prendre et garder le pouvoir. C'est automatique.
Oui, ça me paraît logique. Ouais.
Il se trouve qu'au XIXe siècle, Chamberlain est bien obligé de constater que les familles qui ont la plus grande capacité, elles, à se vacciner en quelque sorte contre les virus répandus par la modernité, mais aussi la plus grande capacité à les injecter, si c'est nécessaire, ou à les faire muter, eh bien ces familles sont souvent des familles juives. En réalité, c'est une nouvelle aristocratie qui émerge. Il se trouve que cette aristocratie est, pas totalement, mais en grande partie, juive. Ça ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux autres candidats au poste.
Ouais.
Hein, ça fait un peu un fauteuil pour deux, tout ça, parce que bon, il y a d'autres gens qui ont un peu les mêmes projets, qui ont un petit peu le même positionnement, qui sont donc amenés un petit peu à être entraînés dans les mêmes dynamiques. Entre autres, une partie de l'aristocratie britannique. Et alors, à ce moment-là, cette partie de l'aristocratie britannique qui commence à être un petit peu inquiète de la montée de cette aristocratie juive voit émerger un capitalisme industriel qui lui, de par sa nature, si vous voulez, n'est pas susceptible d'être capté par ces dynasties juives. La force de ces dynasties, les Rothschild, les Warburg, les Oppenheimer, ce genre de famille, la force de ces dynasties, c'est le commerce. C'est tout simplement que leur mode de fonctionnement interne est parfaitement adapté à une société régie par l'argent. Ils ont muté. C'est d'ailleurs en cela que les antisémites, à mon avis, sont totalement dans l'erreur, parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas affaire à des juifs. Quand ils parlent des Rothschild, des Warburg ou de ces gens-là, c'est un juif médiéval, probablement, disons antérieur au XIIIe siècle, probablement n'aurait pas compris de quoi on lui parlait. C'est tout à fait différent. Ils ont affaire à des gens qui ont muté, qui ont développé en quelque sorte des capacités adaptatives extraordinaires qui leur donnent des capacités de prédation exceptionnelles. Mais ça marche dans le monde du commerce. Ça marche dans le monde de la spéculation, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'action sur la matière, là, si vous voulez, la spéculation, c'est pas forcément l'essentiel, quoi. Je veux dire, les lois de la thermodynamique refusent de se plier aux manipulations des spéculateurs. C'est comme ça. Et dans ce monde-là, effectivement, on peut imaginer qu'une autre bourgeoisie, qui est beaucoup plus mise sous contrôle par une aristocratie prussienne, qui reste à ce moment-là en place, va développer un pôle de puissance capable de battre en brèche ce capitalisme anglo-saxon qui est en train d'émerger à ce moment-là, qui est purement thalassocratique, essentiellement marchand, même si, évidemment, il y a une base industrielle derrière, mais la dynamique est marchande. Pourquoi pas ? Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut lire Houston Chamberlain, et surtout qu'il faut lire le fait qu'il ait été élu. Parce que normalement, bon, ça que Houston Chamberlain s'excite dans son coin en parlant de tout ce qu'il voudra sur le plan des grandes théories raciales, c'est bien s'il veut, mais bon, ça, normalement, ça reste dans des petits milieux qui aiment bien un petit peu fantasmer.
Vous le dites, il aurait écrit ça il y a un siècle avant, personne n'aurait jamais entendu parler de son livre.
On l'aurait pris pour un fou, je pense, ouais, ou à peu près.
C'est vraiment parce qu'il arrive à un moment clé.
Il arrive au bon moment. L'Allemagne à ce moment-là est en train de bénéficier fondamentalement du travail de Bismarck, mais en même temps de répudier la pensée de Bismarck. Si vous voulez bien me passer l'expression, les âneries wilhelmiennes vont commencer. C'est-à-dire qu'il y a un vertige de puissance qui est en train d'apparaître en Allemagne. Et il arrive et lui, il propose un package idéologique tout prêt.
Ouais, c'est formidable.
C'est formidable. Donc à partir de là, il a fini allemand, naturellement, il a été naturalisé.
C'est toujours plus pratique.
Ça lui a permis d'écrire partout que les Teutons avaient fait tout ce qui était de bien dans le monde. Et d'ailleurs, chez lui, c'est même drôle. Hein, c'est-à-dire que c'est un auteur, alors paix à son âme, je ne veux pas... Il a essayé d'écrire des livres, c'est toujours bien. Enfin, il me fait un peu penser au personnage d'Adolfo Ramirez dans Papy fait de la résistance. existence. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un côté comique troupier, quoi. Le passage où il explique que Saint Paul était un teuton est quand même très fort.
Oh, vous savez, les Anglais sont arrivés
c'est
à faire croire.
C'est peut-être de l'humour britannique.
Vous savez, les Anglais arrivent à faire croire que la Windsor est anglaise. Hein,
oui, exactement.
C'est possible hein, aujourd'hui. Alors, Michel Drac, vous rentrez ensuite dans les catégories de. Alors là, on va être dans le dur, c'est le racialisme extrémiste qui va arriver, je veux dire, au nazisme. Et alors, vous prenez un autre risque, parce qu'à chaque fois qu'on passe de chapitre en chapitre dans votre livre, on fait comment il va s'en sortir. Vous prenez un risque parce que vous expliquez et vous faites, bien sûr, vous expliquez bien que le Troisième Reich, suite à Chamberlain, suite à toutes ces délires qui a pu se passer au Troisième Reich de cette race supérieure, vous faites une comparaison qui est quand même audacieuse. Vous expliquez que l'antiracialisme extrême et le racialisme extrême vont arriver à peu près au même résultat. Là, vous marchez sur des œufs. Je vous caricature un peu, mais vous allez vous expliquer. Et ça, vous commencez par le faire en parlant de Rousseau.
Oui.
Alors d'un côté, le racialisme extrême, l'antiracialisme extrême.
Alors, bon, Rousseau n'est pas du tout, lui, dans l'antiracialisme extrême, hein, mais il incube la sensibilité, en quelque sorte, qui va rendre possible ensuite la formulation de l'antiracisme. Attention, je ne suis pas en train de dire que Rousseau était un imbécile membre de SOS Racisme. Non, certainement
non.
Pas.
Non,
soyons clairs. Mais le fait est que, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il arrive avec une autre proposition idéologique pour cette future société des individus, même si lui-même, bien sûr, ne le sait pas encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout chez Rousseau de théorisation de la société des individus. Il aurait d'ailleurs probablement été très surpris si on lui avait parlé du concept. C'était un peu tôt pour lui. Mais en fait, inconsciemment, par la force des choses, c'est ce qu'il est en train de préparer. Et ce cadre idéologique, si vous voulez, donc qui met l'égalité comme valeur centrale, sous-entend déjà la société des individus. C'est déjà le cas, si vous voulez. C'est-à-dire que lui ne veut pas la société des individus, mais à partir du moment où il commence à penser le concept d'égalité, bah en fait, il a prouvé qu'il était dedans, quoi, au sens où il entend l'égalité. Et ce cadre idéologique ensuite évolue, et alors là, petit à petit, on va se rapprocher de ce qui va devenir l'antiracisme. Alors je m'amuse un petit peu dans le livre, parce que bon, il faut savoir être léger sur ces sujets-là, ça aide toujours. Bon, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui, qui mettent les gens tellement mal à l'aise qu'il faut savoir en rire, je crois, c'est important. Donc je montre par exemple quelque chose d'assez amusant, qui est que vous prenez le catéchisme positiviste d'Auguste Comte. Il y a un long passage dithyrambique où il explique qu'il faut faire apparaître une nouvelle, alors je crois que c'est sociocratie, ça doit être quelque chose de cet ordre, qui doit assurer la marche en avant de l'humanité réconciliée vers le progrès, etc. Et alors si vous prenez son texte et que vous remplacez simplement humanité réconciliée par peuple allemand, et nouvelle sociocratie par un nouveau Reich ou quelque chose de cet ordre, je ne me souviens plus exactement, je l'ai écrit il y a longtemps, mais c'est l'idée, il suffit de substituer deux mots. Je crois que vous avez exactement un discours de Hitler, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose comme ça. Enfin, je l'ai écrit il y a 5 ans, mais en fait, on voit très bien la réversibilité. Ce sont en profondeur les mêmes logiques qui sont en train de s'agiter, ce sont en profondeur les contraintes induite par l'individualisme, et derrière l'individualisme, par toute la structure économique et sociale qu'il a créée, qui fabrique, en gros, on va dire, pour dire les choses simplement, chez les Allemands, et les gens qui pensent plutôt à l'allemande, on va dire, le racisme, et chez les Français, et les gens qui pensent plutôt à la française, l'antiracisme. Alors évidemment, dans l'imaginaire contemporain, il y en a un qui est plus sympa que l'autre. Bon, c'est un point de vue. Moi, je trouve que ça se discute beaucoup si on regarde les réalités. Mais en fait, en profondeur, c'est la même chose. En profondeur, c'est la même pensée. Simplement, il y a une chose qui change. D'un côté, elle est exprimée par des gens qui sont différentialistes, et de l'autre, par des gens qui sont universalistes. Mais en profondeur, c'est la même pensée. C'est les mêmes mécanismes qui vont faire passer des idées latentes de l'économique au social, du social au politique, avec, pour assurer les charnières, des producteurs d'idéologie, bon, souvent inconscients d'ailleurs eux-mêmes de ce qu'ils font.
C'est-à-dire, grosso modo, il y en a un qui aimerait en fait créer une sorte de race supérieure en éliminant les autres. Et l'autre, il considère qu'il n'y en a pas, donc grosso modo, il élimine aussi les autres, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de race et que ça n'existe pas. Donc il met une sorte de voile sur toutes les différences qu'il y a. Et l'un des arguments, et là on va arriver un peu à l'actualité, c'est de dire ces différences de race sont tellement minimes qu'elles n'ont aucune conséquence entre les différents groupes, qu'ils soient blancs, etc., etc. C'est-à-dire que je dis, en fin de compte, on peut éliminer ce mot-là, et donc on élimine tout.
En fait, il y a deux façons de mettre les gens dans des catégories et de les empêcher d'en sortir. C'est-à-dire, il y a deux façons de réduire l'homme à une dimension unique, résultant d'un tri selon un certain critère ou selon une certaine combinaison de critères. Soit vous prenez un casier avec plein de petites cases et vous mettez tout le monde dans sa petite case. Toi, tu bouges pas. Soit vous prenez une grande table toute plate et vous mettez tout le monde sur la même table. Bon, tu peux bouger, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, tout est pareil partout.
Oui, il n'y a aucune hiérarchie.
Voilà. En réalité, dans les deux cas, ce qu'on obtient, et d'ailleurs c'est ce qu'on recherche inconsciemment, c'est la réduction de la réalité charnelle que tout simplement la société des individus ne parvient pas à gérer, à un appareillage statistique, mathématique, qui prépare en fait le déploiement d'une cybernétique sociale. Dans les deux cas, en fait, on veut la même chose, souvent inconsciemment.
Parce qu'en fait, on pourrait aller à l'absurde. Pourquoi les Français existeraient, les Allemands, les Espagnols, les Basques, etc. Il n'y a pas de preuve scientifique que ces gens-là existent, à part sur un côté culturel. C'est pareil. On pourrait, la prochaine étape, c'est de dire tous ces gens sont pareils, on n'a pas besoin de les remettre dans une catégorie culturelle.
La prochaine étape, c'est la planète toujours Marshall McLuhan, pour en revenir à lui, a appelé le village global. Et que l'inénarrable Guy Sorman, que j'aime bien parce qu'il est drôle, c'est un peu comme...
C'est vrai. Voilà.
Et que l'inénarrable Guy Sorman a baptisé, je crois, Macworld. Donc, c'est-à-dire, c'était l'alliance dans son esprit de Macintosh, McDonald, et il y avait un troisième Mac, je ne sais plus lequel c'était, bon, peu importe. Et c'est un... C'est McKinsey. D'accord.
Merci Philippe, Christelle. Vous saluez les auditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes toujours dans la vieille Europe. Allez-y, Michel Drac.
Son Macworld, qu'est-ce que c'est? C'est un monde où, bon, les gens sont d'une certaine façon tous différents superficiellement. Ils ont le droit de garder des couleurs de peau différentes, c'est parce que ça n'a pas d'importance, la couleur de peau. Ils ont le droit de garder des traditions culinaires différentes, parce que ça n'a pas d'importance, les traditions culinaires. À condition toutefois, évidemment, qu'ils aillent régulièrement chez McDonald's.
Oui.
Bon, mais McDonald's leur fera des ersatz de traditions culinaires.
Ce qu'elle fait déjà en France.
Oui, hein. Déjà. En fait, ils ont le droit d'être différents sur tout ce qui n'a pas d'importance. Mais sur ce qui est important, là, tout le monde est pareil. Et qu'est-ce qui est important? Bon, Guy Sorman, c'est pas un smicard. Il a de l'argent. Bon. Ce qui est important, c'est que l'argent de Guy Sorman, tout le monde l'accepte. Et c'est tout. Et alors, après, bien entendu, vous pouvez construire un immense appareillage de justification. Bon, à la limite, c'est même pas la peine. Enfin, d'ailleurs, il y a un exercice amusant à faire. C'est à la fin des années 90, Guy Sorman a écrit un livre qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, Le Monde et ma tribu. Ce qui est extraordinaire, c'est de le relire aujourd'hui. À fou rire garanti à chaque page. Mais c'est pas grave. Le projet continue à se déployer.
Ce qui est assez, assez intéressant, c'est que vous expliquez que vous parlez du ressenti, expliquant qu'il pourrait être plus important que l'aspect génétique, c'est-à-dire que les gens ont l'impression de faire partie d'une race et que ce ressenti, on ne veut pas le prendre en compte. On dit c'est une erreur, ces gens-là se trompent. Mais vous expliquez que dans le monde animal, le ressenti des animaux, il existe. Vous expliquez, il y a un exemple très très marrant, qu'il y a des combats de cerfs entre mâles pour les femelles, mais parfois il n'y a pas de femelles, mais ils combattent quand même. Et cette absurdité de vouloir faire disparaître un mot, les sociétés dans le monde n'ont pas forcément l'individu, les sociétés n'ont pas envie de le faire disparaître parce qu'ils ont un ressenti bien important.
Alors en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui explique l'espèce d'obsession antiraciste dans laquelle on est basculé? L'idéologie dominante de l'ancienne étape, de l'étape précédente dans la construction du capitalisme global, était raciste. C'était l'utilisation des races, alors la race blanche, la race aryenne, speak white, dites ça comme vous voudrez. Ça dépend, tout ça est très, très, très modulable, c'est toujours à géométrie variable. Ouais. Bon. Mais c'était fondamentalement, c'est un monde dominé par la pensée des différentialistes, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser le différentialisme pour créer des espaces à l'intérieur desquels on peut déployer le projet, comme je vous disais, de cybernétique sociale en réalité, parce qu'il a été indifférencié à l'intérieur de cet espace. Ça, c'est ce qui était prédominant à l'époque où le capitalisme n'avait pas encore atteint le stade global. Maintenant, il a atteint ce stade global. Donc cette cybernétique sociale se déploie à l'échelle globale. Donc elle ne veut plus de l'ancienne pensée, on va dire, raciste. Pensée raciste elle-même qui, je le précise, dans mon esprit, n'est pas du tout conforme, comme j'expliquais au début, avec une perception saine de la question raciale. En fait, c'est une pathologie, pire, à mon avis pire, qui est en train d'en remplacer une autre. Mais je voudrais surtout pas qu'on pense que j'écris la question raciale pour défendre la pathologie précédente. Dans mon esprit, en tout cas, j'ai essayé de le faire comprendre dans mon livre.
Oui, alors on n'a peut-être pas été assez clair, il y a eu quelques messages. Bon. Il y a des gens qui ont l'impression qu'on a été à faire l'apologie. Non, on n'a pas fait l'apologie de Chamberlain, on n'a pas fait l'apologie de ces gens-là. Ces thèses, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, sont des thèses farfelues, fantaisistes. Mais on s'est servi d'eux pour amener à autre chose. C'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Mais ces thèses sont complètement absurdes.
Ce que vous venez de me dire est tout à fait représentatif du problème qu'il y a à parler de la question raciale. Je viens de dire que Chamberlain me fait penser au personnage d'Adolfo Ramirez dans Papy fait de la Résistance, et on reçoit un message disant que j'en fais l'apologie.
Oui, mais alors, est-ce que tout le monde ne connaît pas Adolfo Ramirez, qui est un
personnage de...
Bon, dans Papy fait de la Résistance, je dis à ces personnes, regardez, vous allez voir que Gérard Jugnot, qui se présente comme le nouvel Arien, c'est ça, dans l'histoire, à la Gestapo, c'est, voilà ce que voulait dire Michel Drac. Le fait de nier les races, est-ce qu'on retrouve ça chez les peuples asiatiques et chez les peuples africains en ce moment, comme dans les peuples occidentaux? Ou alors, est-ce que c'est vraiment typiquement français en ce moment? Parce que j'ai l'impression, comme le mot race ne veut pas dire la même chose dans les autres pays, j'ai l'impression que là, on est dans un problème franco-français.
Alors, en fait, on est dans un problème actuellement occidental. En gros, comme je vous disais, l'avancement des idéologies de cautionnement à travers la question raciale, dépend du niveau d'avancement dans la construction de la société des individus, et lui-même dépend de l'avancement du capitalisme, on va dire tout simplement du projet capitaliste au sens large. Alors évidemment, c'est sûr que si vous prenez des sociétés qui ont un niveau de développement industriel très bas en Afrique, ben forcément le capitalisme là-bas existe aussi, peut tout à fait se déployer. Il peut d'ailleurs prendre des formes extrêmement brutales, parce que comme il vient heurter des structures anthropologiques préexistantes, par la force des choses, il a besoin, pour s'imposer, d'être très brutal. Mais il n'est pas au même stade de développement. À mon avis, si les choses peuvent continuer durablement, c'est-à-dire en clair, si l'histoire telle qu'elle s'écrit depuis le XIIIe siècle à peu près doit continuer encore quelques siècles, ce qui n'est pas certain du tout. Si vous revenez en Afrique dans 100 ans, bon, ils auront des ligues antiracistes et le travail d'aplanissement aura pris cette tournure-là. Aujourd'hui, là-bas, c'est pas du tout d'actualité. Ça se passe à l'intérieur des sociétés modernes, avancées, occidentales. Hors d'Occident, il y a des réactions beaucoup plus fortes, en Russie par exemple, et en ce qui concerne les sociétés est-asiatiques, alors là, on est un peu dans un autre monde. Manifestement, ils sont encore au stade du nationalisme. Je gage que ce qui déterminera leur évolution à court terme, ce sera les choix stratégiques des capitalismes rivaux chinois et japonais. S'ils s'entendent et s'ils se marient, vous aurez le Parti communiste chinois fera comprendre à la population que la ligne du parti maintenant, c'est que en fait un chinois et un japonais, c'est pas pareil, il faut pas exagérer, mais enfin. Si c'est pas ça, si ça va, c'est pas si éloigné que ça. Et
il y aura du boulot là.
Non mais les Chinois comprendront très bien. Le Parti communiste chinois sait se faire comprendre. Là, pas de problème, je peux vous dire. Si jamais ils restent rivaux ou si leur rivalité doit même s'aiguiser, bon, ben on s'apercevra qu'il y a une idéologie raciale qui peut émerger effectivement en Chine. Ça va être un peu compliqué pour eux vu la diversité interne, mais. Je crois qu'on sait pratiquement tout faire en la matière.
Merci Michel Drac. Je rappelle le titre de votre livre, La question raciale, aux éditions Le Retour aux Sources, éditeur. C'est 15 €, et je vous assure que quand vous sortez de là, contrairement à ce que peut-être des auditeurs ont cru, on ne devient pas raciste, on ne devient pas antiraciste. En tout cas, on a eu une réflexion là-dessus, et c'est peut-être l'une des plus brillantes que j'ai lues depuis un moment. Nous allons faire une petite pause musicale et passer à un morceau du groupe Ion, Devotio. C'est aussi, comme le texte de ce début d'émission, un morceau en hommage bien sûr à Dominique Vénère. La Devotio est un pacte par lequel la divinité invoquée est invitée à prendre elle-même ce que lui offre le requérant. Pour cette deuxième partie des chroniques de la vieille Europe, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et vous avez pu entendre il y a maintenant un petit quart d'heure la voix de Philippe Christel qui est bien sûr là pour son actualité européenne. Philippe, on part où ?
Écoute, on va fêter les anniversaires, Patrick. Vous avez vu que l'ensemble de nos médias se sont gobergés il y a peu autour de l'anniversaire des 1 an de présidence de François Hollande.
Ah oui, c'est vrai.
Mais quasiment le même jour, quasiment le jour de cette conférence de presse, paraissait un article passionnant dans Le Monde qui relayait un événement passé assez inaperçu et que je vous propose de fêter. C'est la date du 18 mars. C'est la date de la libération de l'Europe. Eh oui, parce que vous savez,
j'ai pas appris ça au lycée.
Eh oui, parce que vous savez bien que depuis jusqu'à la chute du mur de Berlin, on a eu l'occasion de dire que l'Europe était militairement occupée par une puissance, en l'espèce les forces du pacte de Varsovie. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Le 18 mars, le dernier char américain a quitté l'Allemagne.
D'accord.
Donc, il faut que vous sachiez, il faut que nos auditeurs sachent, parce que suite à la défaite de 1945, l'Allemagne continuait d'être occupée militairement. Alors, elle l'est toujours, mais il n'y a plus de chars. Bref, ce que je veux dire, c'est que, voilà, date symbolique dans l'évolution des rapports de force et dans l'évolution des relations internationales sur le sol européen, eh bien, les forces blindées américaines ont quitté l'Allemagne avec un dernier transport de troupes de 22 chars Abrams qui ont quitté Kaiserslautern le 18 mars dernier.
Il reste plus que des soldats, quoi.
Il reste des soldats, il reste deux, trois trucs. Donc, je confirme que l'Allemagne est donc toujours occupée militairement.
Notamment deux ou trois têtes nucléaires.
Bien évidemment, c'est la boutade, mais on a là quelque part une sorte de fin de cycle. Nous sommes assez des observateurs réguliers et je l'espère pertinents de ces mouvements de rééquilibrage de la puissance américaine. On l'a vu, ça date de Bill Clinton. On a longtemps, plusieurs fois commenté le discours de Prague de Barack Obama qui confirme que les États-Unis d'Amérique se désintéressent de l'Europe, de l'Europe centrale, du cœur de ce qu'aurait pu être les cibles de la guerre froide de l'époque. Puisque, effectivement, depuis de longues dates maintenant, depuis 90, les Américains allègent considérablement leur dispositif en Europe. Alors, en Europe terrestre, dirais-je, puisqu'ils resserrent, en revanche, leur réseau de base en Méditerranée. Mais les cibles, ce sont beaucoup plus, désormais, les Balkans, qui sont en Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, et d'où les points d'achoppement avec la puissance russe qui cherche, elle, à se redéployer d'un terrain dont elle a été bannie. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que l'article du Monde est totalement clair sur le fait, je cite, la Russie est réellement encerclée sur le plan stratégique et les États-Unis installent de nouvelles bases à ses portes, disposant ainsi de centres névralgiques d'où pourraient être lancées des opérations dans la zone de la mer Caspienne et de l'Asie centrale, voire sur des cibles à l'intérieur de la Russie elle-même. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que quand la Russie dit, écoutez les gars, quand même, bouclier antimissile, nous pas contents, nous fâchés, tout le monde dit, oh là, vraiment, ces Russes, ils comprennent pas qu'on veut neutraliser l'Iran et rien d'autre. Non, ben là, c'est moins...
Il y a du progrès dans le monde, parce que maintenant, ils le disent clairement.
Voilà,
ça au moins...
Alors, donc, ça, c'est le premier élément qu'il y a d'analyse derrière cet événement. Le deuxième élément est intéressant, c'est que... 1945, d'une certaine manière, a sonné le glas de toute puissance militaire européenne construite et autonome par l'affreuse guerre civile, la fin de cette guerre de 30 ans. Elle a été remplacée par l'armement à l'Est, l'armement atlantique états-unien. Aujourd'hui, ces deux armements-là ont reflué ou refluent. Et il est remplacé par quoi ? Par rien. Et c'est quand même l'autre leçon, c'est-à-dire que les Américains, même sous la pression de leur déficit budgétaire considérable, se redéploient. Certes, ils font donc des choix tactiques. Les Russes, après s'être repliés sous la pression des événements, continuent à réarmer massivement. Alors massivement en croissance, mais le seuil est encore faible avant de rattraper les États-Unis, bien évidemment. Et quant aux Européens, les Européens, ils n'ont plus envie d'en parler. Et ils n'ont pas envie de parler de défense. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus le sujet. Et donc, on verra bien si ça va donner suite à une sortie de l'histoire, cette fameuse sortie de l'histoire pour l'Europe de l'Ouest, ou à des espèces de guerres un peu froides, ou un peu tiède, puisque à l'évidence, l'Europe va quand même continuer à être un lieu d'affrontement entre les États-Unis et la Russie. Le deuxième anniversaire que je voulais fêter avec vous, c'est un anniversaire de pour fêter une première année de présence à la tête d'un État. Parce que on a fêté les premières années de François Hollande, mais on n'a pas fêté la première année de Vladimir Poutine.
Non, c'est vrai que c'était oublié complètement.
Et bien alors.
Bon, alors.
Faute coupable.
Ouais. Alors, un petit bilan, fait Christelle.
Moi, je vous
voyez-vous. Ouais.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, si on fait le bilan, c'est le principe des anniversaires, c'est vraiment de faire des bilans, ça sert à peu près qu'à ça. Donc si je fais un bilan de niveau cote sondagière, donc c'est comme François Hollande, c'est la décrue. Hein, c'est-à-dire que bon, François Hollande est passé d'environ 60% à 20% et Vladimir Poutine lui aussi a perdu depuis ses 60%, il est à 54% maintenant. Donc hein, c'est des points communs.
Ah oui, c'est les deux chefs d'État. C'est dur pour lui quand même.
Il y a assez, on sent que c'est dur. Blague à part, ce qui est intéressant, c'est que vous vous rappelez du contexte d'accession au pouvoir de Vladimir Poutine avec ses grandes manifestations ou prétendues grandes manifestations dans les grandes villes de Russie et principalement à Moscou, ce qui permet de relativiser dans un pays de 140 millions d'habitants. Et donc les traditionnels analystes qui nous ont toujours prédit ce qu'il fallait sur la Russie nous disaient, voilà, on sent bien quand même que Vladimir Poutine va devoir prendre en compte, va devoir ménager, va devoir amadouer, etc. Eh bien, les décisions prises par la première année du mandat Poutine, qui est en fait son troisième mandat, sont probablement les décisions les plus dures que celles de les plus dures si on compare avec les décisions de ses deux premiers mandats et du mandat Medvedev. Donc on l'a vu tout de suite avec la réaction ultra rapide du pouvoir sur l'affaire des fameuses Pussy Riots. On l'a vu avec les réactions sur vous vous souvenez de cet événement absolument immonde de ces Américains renvoyant en Russie un enfant adopté parce que il ne leur plaisait plus et donc derrière le vote de la loi interdisant l'adoption d'enfants russes par des Américains. On l'a vu également sur la fameuse loi qui pousse les organisations non gouvernementales à s'enregistrer. Pas à demander une autorisation, à s'enregistrer. Et ce qui est très drôle, puisqu'elles sont donc, et donc elles doivent déclarer leurs ressources. C'est-à-dire que nous, alors que nous sommes en train de faire l'apologie de la transparence comme nouveau mode de gouvernance, pour nos ministres, dont à l'évidence, tout le monde voit bien qu'ils nous déclarent pas tout, c'est évident. Ou en tout cas, ils ont fait les bonnes donations avant de pouvoir faire leur déclaration, suivez mon regard. Là, il y a un exercice de transparence qui consiste à dire, tiens, vous êtes une organisation non gouvernementale, à but humanitaire, à but philanthropique, vous prenez tel ou tel événement, vous avez bizarrement un accès médiatique très fort, ben, c'est important que vous nous disiez qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, d'où vous venez, comment vous êtes financé. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a pas fait là, le Poutine? Donc, mais il tient la balance. C'est intéressant parce que, figurez-vous qu'en ce moment même, on est en train de s'émouvoir, mais alors vraiment, je vous rassure, du bout des lèvres, parce que dans l'Égypte du très démocrate président Morsi, le président Morsi qui a été élu à l'issue d'un scrutin pas du tout sous tension, et puis pour mettre un terme à l'odieux dictateur laïque Moubarak, donc le président Morsi, qui est issu des frères musulmans, mais qui prend beaucoup de distance avec eux, hein, on le sait, hein, pas du genre à se faire dicter sa loi, hein, c'est pas le coup. Donc là, ils viennent d'imposer, alors là, ils n'ont pas fait voter, ils ont imposé un texte qui impose donc aux ONG des restrictions encore plus draconiennes que sous Moubarak, et là, ce sont des demandes d'autorisation. Donc, alors là, j'attends le déferlement, parce que des ONG, hein, il y en a à peu près autant en Égypte, si ce n'est plus qu'en Russie, donc j'attends le déferlement des pudeurs sinistrées des uns et des autres, puisque c'est tout récent, et donc je pense qu'on va voir qui c'est le plus méchant, hein, je sais que je parle pas bien quand je dis ça, mais qui c'est le plus méchant entre le président Poutine et le président Morsi. Donc, ce qui est intéressant dans le mandat de Poutine, c'est qu'il y a au moins une chose qu'il a retenue, je pense pas qu'il l'ait appris à l'occasion des manifestations d'il y a un an, mais c'est ce réel sujet de la corruption à tous les étages. Et il y a un certain nombre de mesures drastiques, là aussi, qui ont été prises. Mesures d'interdire aux Russes, aux responsables politiques russes d'avoir des comptes à l'étranger d'ici au 1er juillet. Alors, là encore, on verra entre ceux qui diront je vais régulariser, on sait qu'il ne suffit pas d'interdire pour que la loi soit respectée, mais là encore, signature d'une loi obligeant les fonctionnaires d'un certain niveau à dévoiler leurs dépenses et les dépenses de leur famille. Mais surtout, l'angle que je trouve intéressant, c'est que le concept, vous savez que les Russes aiment bien habiller de leurs actions de concept, hein, on a connu le concept de la perestroïka, là le concept qui est lancé, c'est celui de la patriotisation de l'élite. Et je trouve ça très fort, d'abord je trouve ça assez pertinent, et je trouve ça très fort puisque le problème effectivement, c'est qu'on se rend bien compte que le poisson pourri parle toujours par la tête, comme disait le vénérable président Mao, donc ça, c'est, auditeur, n'envoyez pas de message, c'est une plaisanterie.
Oui.
Et donc là l'enjeu, il vise effectivement ces élites qui sont occidentalisées ou mondialisées, qui ont des niveaux de revenus confortables. Je pense qu'on a dépassé un peu le cadre de ceux qui ont tiré de forts revenus des privatisations et des hold-up de la fin de l'ère Yeltsin. Mais l'idée c'est de dire, nous construisons une Russie forte qui vous permettra de continuer à réussir, et donc vous pouvez continuer à être une élite, mais en étant patriote. Et je trouve que ce slogan a tout son sens quand on compare la situation française et le dramatique exil des talents que nous connaissons, et pas que pour des raisons fiscales. Donc là encore, une comparaison avec la France et le mandat du première année du président Hollande. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu que le socle de Poutine est un socle qu'on pourrait appeler... populaire ou populiste, puisqu'en gros l'électeur de Poutine c'est la province qui ne fréquente pas l'université, qui ne fréquente pas beaucoup Internet, qui est moins ouverte sur le monde, qui a voté non au référendum de Maastricht. Et donc ce qui est intéressant, c'est que il y a une volonté d'aller reconquérir ces élites qui sont sur le fil du rasoir. Et tout à l'heure on souriait puisque j'ai soufflé le nom de McKinsey à notre intervenant précédent. Quand vous regardez des secteurs d'activité très précis comme les cabinets de conseil anglo-saxons qui sont ces Big Five qui dirigent et qui sont universels, eh bien de plus en plus les talents qui ont fait école chez eux et qui viennent des grandes écoles et des universités russes, ces gens-là reviennent sur le territoire pour participer à l'édification de la grande nation. Et donc, à l'évidence, il y a quelque chose qui est réussi. Il faut voir ce que ça donnera dans la durée. Mais ça me paraît tout à fait intéressant. Et en tout cas, c'est à l'évidence la preuve que le piège n'a pas fonctionné. Le piège de l'illusion de la manifestation pour plus de liberté, d'occidentalisation, quoi que ce soit. Je pense que les Russes ont vite compris que si effectivement la liberté, c'est la capacité pour trois névrosés d'aller montrer leurs fesses au plein milieu d'une cathédrale, il y a mieux à vouloir et il y a plus d'intérêt à s'intéresser à la patriotisation de l'élite.
Et on pourra dire aussi que leur croissance résiste bien à la crise et que s'il y a une légère baisse, c'est parce que l'Europe est en panne de ce côté-là.
Oui.
Mais ils résistent beaucoup mieux et on aimerait bien avoir les chiffres de la Russie.
Oui, mais vous savez, Patrick, alors, je peux pas être en désaccord, mais donc je suis d'accord. vous savez, faire 0,2 points de PIB quand vous êtes la France et faire 7 points de PIB quand vous êtes la Russie, ça se fait pas exactement de la même manière.
Non, je sais.
Et par ailleurs, il y a quand même encore, je dis encore parce que l'éruption du gaz de schiste va rebattre les cartes sur un certain nombre de sujets, mais il y a encore ce poids de la rente énergétique que la Russie n'arrive quand même pas aussi vite que cela à remplacer par une industrie manufacturière plus traditionnelle. Donc je pondère.
On est d'accord.
Ce qui était rigolo aussi
c'est historique
dans l'émission.
Philippe pondère
mon enthousiasme sur la Russie, je le note.
C'est
ce qui montre son objectivité quand même.
Oui.
Je peux vous dire que dizaines de milliers d'auditeurs qui nous écoutent, vous êtes les deux seuls à n'avoir pas compris que le seul véritable modéré de l'émission, c'est moi.
Ouais. Non, mais j'avais simplement lu un papier de Jacques Sapir, mais je vois que Jacques Sapir est beaucoup plus extrême que vous et vous êtes beaucoup plus prudent.
Bien sûr, attendez. Bien.
Incroyable.
Pour la suite. Vous avez vu toujours sur le sujet Russie, je pense que vous avez vu la pantalonnade de cette histoire de d'espion ou d'apprenti espion démasqué. Alors c'est très drôle. C'est très drôle pour deux raisons. La première, c'est que
donc on va peut-être reprendre pour l'auditeur.
Oui, donc, rapidement. Les services de sécurité russes ont pris la main dans le sac. Un diplomate de l'ambassade de Moscou, visiblement affilié à la CIA, dans un square avec une perruque, des lunettes teintées, un plan de Moscou, une boussole, des enveloppes bourrées de billets de 500 euros, en train de faire une offre de corruption pour un des principaux responsables du FSB qui intervient notamment sur le dossier de Tchétchène. On est dans la foulée de l'entraide judiciaire et criminelle offerte par les Russes aux Américains suite aux attentats de Boston. L'attentat de Boston, commis, je le rappelle, par les frères Tsarnaïev, qui avaient été, il y a 4 ans, signalés par Moscou comme étant de possibles terroristes, mais les États-Unis, tout à leur amour pro-Tchétchène, n'y avaient vu que du feu et avaient laissé passer. Bref, les Russes attrapent cette espèce de Mr Bean local et ne peuvent que s'empêcher de le montrer sur le thème. Écoutez les gars, là... Bon, on veut bien faire des trucs de temps en temps, c'est bon, ok, enfin, non, là, c'est pas possible. Là, on est obligé de le choper, on est désolé. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'on est en plein dans le reset du reset, hein, parce que Obama passe son temps à vouloir réchauffer ses relations, puisque la moitié du département d'État ou du Pentagone sabote consciencieusement ce qu'il essaye de faire par ailleurs dans le réchauffement des relations avec Moscou. Et alors, donc il y a deux choses qui sont amusantes. La première chose qui est amusante, c'est que, à l'évidence, ce gars, je sais pas d'où il vient, il s'appelle Ryan Fogel, c'est son nom, il s'appelle
pas. Oui, c'est pas de sa faute, ça.
Différemment, mais c'est pas grave. Bah, visiblement, ce gars continue à penser qu'on peut attraper les mouches avec du vinaigre. Donc, je pense qu'il a une vision, si vous voulez. Je parlais de la patriotisation des élites de tout à l'heure. Je pense honnêtement qu'on peut dire que depuis environ 30 ans et contre vents et marées, il y a probablement 2-3 trucs en Russie qui n'ont pas cédé aux sirènes et qui ont gardé le sens de l'État. Et il y en a 2-3, il y en a un, ça s'appelle le FSB, je pense. Donc je dis pas qu'il n'y a au FSB que des incorruptibles et des... je trouve plus son nom là, le gars d'Al Capone.
D'Eliot Ness.
Eliot Ness, voilà. Bon. Voilà. Bon, enfin bref, le gars, donc il attaque, il va chercher un gars du FSB, il va le chercher sur un thème sur lequel les deux pays sont en train de collaborer, et il y va à l'ancienne avec du billet de 500 dollars, de 500 euros dans du papier Kraft. C'est des euros.
Notons.
Bref. Donc il y a un côté quand même, il y a un côté pied nickelé qui renvoie quand même à la caricature qu'on a tous des services secrets américains qui sont d'apprendre les cultures et les fonctionnements des hommes dans les livres écrits à Washington. Ça, c'est la première chose. La deuxième truc marrant, c'est la querelle d'experts. Parce que le type se fait choper. Il est ridicule. J'aime bien, le gars, il se fait attraper avec une perruque blonde et des lunettes teintées dans un square. Enfin, bon, sauf pour aller manifester pour le mariage gay. Enfin, sinon, pour toute autre circonstance, c'est quand même ridicule. Bon. Alors immédiatement, vous avez un expert. Alors généralement, on peut pas prendre un Américain, ce serait trop grave. Donc on a trouvé un Anglais. Un Anglais, il s'appelle Samuel Green. Il est directeur de l'Institut russe au King's College de Londres.
Ah,
et il est cité par l'agence américaine Associated Press. Et il dit, vraiment, les gens chargés de la propagande au Kremlin nous prennent pour des idiots. Parce que vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on fait plus de l'espionnage avec des perruques, des lunettes, machin, etc. Et non, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que quand même, on peut dire les choses, et même quand il y a un allié qui dit des bêtises, on lui dit, écoute, Sam, ça dit des bêtises. Puisque, on a, alors, le New York Times, qui a fait son travail, a interviewé des experts qui disent qu'écoutez, quand vous avez, il faut pas, enfin, votre iPhone, il est surveillé, les caméras de vidéosurveillance, il y en a partout, donc non, une boussole, c'est pas surveillé, et une perruque, ça déjoue les caméras de surveillance. Donc, il était bon, le gars.
Ouais.
Donc voilà, je vous donne en plus, vous avez le choix, c'est cadeau ce soir, l'état de la doctrine de la CIA sur ces sujets-là, donc, ça marche toujours, le coup de la perruque et de la boussole.
Ouais, les vieilles méthodes. Hein.
Les vieilles méthodes ont la peau dure. Allez, trois minutes pour parler de séquences plus électorales. Il serait intéressant qu'on se remémore, et nos auditeurs avec nous, la passionnante discussion qu'on avait eue avec notre invité suite aux législatives italiennes. Vous avez vu que les élections municipales italiennes qui viennent de se dérouler ont été un camouflet cinglant pour le mouvement 5 étoiles. Ce que l'on pouvait imaginer, et donc avec deux conséquences. Donc ce mouvement 5 étoiles va disparaître, ne sera présent dans aucun des seconds tours, donc ils ne perdent pas de mairie puisqu'ils n'en avaient pas.
Hein.
Donc, alors on peut à la fois se dire qu'évidemment pour un premier score municipal c'est un bon score, il plafonne entre 7 et 10, par rapport aux 23% faits aux législatives, c'est quand même une gifle, d'autant que la gestion municipale était quand même propice aussi à dénoncer de la corruption, etc. Il y avait quelques cibles emblématiques dans lesquelles les listes ont été absolument balayées. Le dégât collatéral, c'est que les gens qui ne votent plus pour le mouvement 5 étoiles sont retournés dans la famille d'origine qui est plutôt la gauche. Donc on a une poussée sur la gauche qui va menacer un certain nombre de mairies sortantes à droite, notamment Rome. C'est ça qu'il faudra suivre parce que le taux de participation a été extrêmement bas. Il y a même un patelin dont j'avais noté le nom mais que j'ai paumé, où ils ont annulé l'élection parce qu'il n'y avait que 11% de participation.
Ah oui.
Vous vous rendez compte ? 11% de participation. Et donc on voit bien que là il y a un rééquilibrage. Ce sera intéressant à observer. On va attendre de faire le bilan après le deuxième tour. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est bien évidemment la Suède.
Le modèle suédois.
Eh bien, on va, et je crois qu'on a raison de le dire, parce qu'il faut regarder ce qui se passe, et parce que je crois que nous y arrivons à vitesse grand V. Qu'est-ce qui se passe ? Le modèle suédois, on se rend compte que dans ces banlieues de Stockholm dont on parle, la population immigrée extra-européenne constitue environ 15% de la population, hein, donc c'est un peu moins que chez nous, enfin... Ils sont tous français chez nous, vous me direz. Mais donc aujourd'hui,
notre avantage.
Effectivement, toute cette logique d'émeute qui désespère et qui intrigue les Suédois. Ce qui est intéressant, c'est que le premier niveau d'explication ministérielle, c'est de dire, mais attendez, on a des problèmes de déficit budgétaire, on a diminué fortement l'État-providence, les ressources de l'État-providence.
Or,
ceux qui vivent de l'État-providence, c'est comme ça qu'ils racontent, hein, ces populations-là, elles vivent plutôt des subsides de l'État-providence. Nous, on appelle ça l'assistana, qu'on fait notre discussion d'il y a 4 semaines. Et donc, on se rend bien compte que, oui, il y a un peu d'exclusion sociale, mais on a surtout des gens qui vivent que de ça. Donc, quand on baisse, du coup, voilà comment ça se termine. Vu l'état de nos budgets et de nos comptes sociaux, et vu le nombre de populations qui y sont assujetties de la sorte, et vu notre point de départ en termes d'émeutes urbaines, où on a quand même une bonne base, assez solide, pour faire le Trocadéro, je pense que c'est intéressant. Même le ministre de la Justice, qui est le ministre de la Justice, il n'est pas des démocrates suédois, qui est le parti dit d'extrême droite, qui explique que l'exclusion sociale est une cause très importante, on comprend ça, mais ils auraient quand même dit, d'autre côté, c'est vrai que ces personnes, quand elles font l'objet de contrôle, elles réagissent parfois, je cite, de manière un peu trop sensible face à la police. Immédiatement, ça a déclenché un débat sur le niveau de racisme au gouvernement, on imagine bien. Et alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que l'autre élément, c'est que, bien évidemment, dans la classe politique et les témoignages qui sont cités, on a des gens qui disent « mais pas du tout ». C'est pas un problème de qualité de vie au niveau économique, parce que ces gens-là, on dit qu'ils sont exclus de la société, mais ils ont accès à tous les services dont ils ont besoin, les bibliothèques, les centres d'accueil, les aides sociales. Ils n'ont pas à se plaindre. Je cite, à mon avis, la police et le gouvernement n'ont pas été sévères avec eux suffisamment. Ce qui se passe surtout, c'est le résultat direct d'une politique d'immigration irresponsable, et ce n'est pas avec plus de moyens financiers qu'on résoudra le problème. Donc bien évidemment, on a chez eux aussi les célèbres politologues. Alors on a un politologue qui explique que vraiment, en fait, tous les partis politiques suédois facilitent la tâche de l'extrême droite et que c'est scandaleux. Donc
ils ont les mêmes que chez nous.
Donc c'est un professeur à l'université de Stockholm, probablement un viking de souche. Il s'appelle Paulina de los Reyes. Voilà. Donc voilà, on a les mêmes. Donc le modèle suédois, affaire à suivre, parce que je pense qu'on part plus mal qu'eux, et ils commencent déjà très fort, et donc c'est intéressant de voir comment ça va se passer. Là aussi, beaucoup de choses
à observer dans ces mois.
Alors, et je voudrais dire que pour observer ce genre de d'actualité, ça a été très difficile parce que la presse française a mis à peu près une semaine à en parler. Hein. Les émeutes ont duré quasiment 6-7 jours. Et puis on commence à avoir des articles dans la presse française.
La bonne série entre le meurtre sauvage du soldat britannique, l'agression du soldat français, les émeutes en Suède, la pantalonnade de la répression et de la radicalisation conséquente de la manif pour toutes, il y a quand même de quoi ouvrir les yeux, il y a quand même de quoi prendre sérieusement espoir en espérant que on construise bien et qu'on n'aille pas se réfugier dans des valeurs qui sont déjà perdues.
Merci à vous Philippe, fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie, on se retrouve dans 4 semaines, on vous souhaite une bonne soirée sur Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la vieille Europe, dirigé par Patrick PL, assisté de Philippe Christel et Pascal Esric, diffusé en direct mardi 28 mai 2013 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé jeudi 30 mai dans la nuit de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix de francs de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Prochaine diffusion de ce libre journal, jeudi de 21h30 à 23h. Merci à tous de rester à l'écoute de Radio Courtoisie, chers auditeurs. Tout à l'heure, à minuit, nous rediffuserons l'émission de midi, le libre journal de Christian Langlois, document d'archives de Radio Courtoisie du 20 février 1996, avec Nouvelles des Arts et Regards sur l'architecture. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Courtoisie, il est 23h. Tout de suite, votre nuit musicale avec, comme tous les mardis, des œuvres symphoniques, des symphonies aujourd'hui de Jean-Chrétien Bach, avec pour commencer la symphonie, les symphonies en mi bémol majeur, opus 9, numéro 2, et en si bémol majeur, opus 18, numéro 2, donc également par l'orchestre de chambre de Berlin sous la direction d'Helmut Koch. Puis, pour suivre, la symphonie en sol mineur opus 6 numéro 6, en ré majeur opus 18 numéro 4, et en ré majeur également opus 18 toujours, mais numéro 6, par l'Académie pour la musique ancienne de Berlin. Ces œuvres de Jean-Chrétien Bach, donc, réunies sur un disque compact des éditions Berlin Classique. Tout de suite, les symphonies en mi bémol majeur opus 9 numéro 2 et en si bémol majeur opus 18 numéro 2. Thank you.
Thank you.